John Locke, Traité du gouvernement civil, chapitre 7, de la société politique ou civile. 77. Dieu ayant fait l'homme une certaine créature, à qui, selon le jugement que ce sage créateur en avait porté lui-même, il n'était pas bon d'être seul, il a mis dans l'obligation, la nécessité et la convenance qu'il lui a inspirée avec le désir de se joindre en société. La première société a été celle de l'homme et de la femme, et elle a donné lieu à une autre qui a été entre le père, la mère et les enfants. À ces deux sortes de sociétés s'en est jointe une troisième avec le temps, savoir celle des maîtres et des serviteurs. Quoique ces trois sortes de sociétés se soient rencontrées ordinairement ensemble dans une même famille, dans laquelle le maître ou la maîtresse avait quelque espèce de gouvernement et le droit de faire des lois propres et particulières à une telle famille, chacune de ces sociétés-là, ou toutes ensemble, était différente de ce que nous appelons aujourd'hui société politique, ainsi que nous en serons convaincus si nous considérons les différentes fins et les différentes obligations de chacune d'elles. 78. La société conjugale a été formée par un accord volontaire entre l'homme et la femme, et bien qu'elle consiste particulièrement dans le droit que l'un a sur le corps de l'autre, par rapport à la fin principale et la plus nécessaire, qui est de procréer des enfants, elle ne laisse pas d'emporter avec soi et d'exiger une complaisance et une assistance mutuelle et une communauté d'intérêts nécessaires, non seulement pour engager les mariés à se secourir et à s'aimer l'un l'autre, mais aussi pour les porter à prendre soin de leurs enfants, qu'ils sont obligés de nourrir et d'élever, jusqu'à ce qu'ils soient en état de s'entretenir et de se conduire eux-mêmes. 79. Car la fin de la société, entre le mâle et la femelle, n'étant pas simplement de procréer, mais de continuer l'espèce, cette société doit durer, du moins, même après la procréation, aussi longtemps qu'il est nécessaire pour la nourriture et la conservation des procréés, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'ils soient capables de pourvoir eux-mêmes à leurs besoins. Cette règle que la sagesse infinie du Créateur a établie sur les œuvres de ses mains, nous voyons que les créatures inférieures à l'homme l'observent constamment et avec exactitude. Dans ces animaux qui vivent d'herbe, la société entre le mâle et la femelle ne dure pas plus longtemps que chaque acte de copulation, parce que les mamelles de la mère étant suffisantes pour nourrir les petits jusqu'à ce qu'ils soient capables de se nourrir d'herbe, le mâle se contente d'engendrer, et il ne se mêle plus, après cela, de la femelle ni des petits, à la subsistance desquels il ne peut rien contribuer. Mais, à l'égard des bêtes de proie, la société dure plus longtemps, à cause que la mère, ne pouvant pas bien pourvoir à sa subsistance propre et nourrir en même temps que ses petits par sa seule proie, qui est une voie de se nourrir, est plus laborieuse et plus dangereuse que n'est celle de se nourrir d'herbe, l'assistance du mâle est tout à fait nécessaire pour le maintien de leur commune famille, si l'on peut user de ce terme, laquelle, jusqu'à ce qu'elle puisse aller chercher quelque proie, ne saurait subsister que par les soins du mâle et de la femelle. On remarque la même conduite dans tous les oiseaux, si l'on excepte quelques oiseaux domestiques qui se trouvent dans des lieux où la continuelle abondance de nourriture exempte le mâle du soin de nourrir les petits. On voit que, pendant que les petits dans leur nid ont besoin d'aliments, le mâle et la femelle y emportent jusqu'à ce que ces petits-là puissent voler et pourvoir à leur propre subsistance. 80. Et en cela, à mon avis, consiste la principale, si ce n'est la seule raison, pour laquelle le mâle et la femelle dans le genre humain sont obligés à une société plus longue que n'entretiennent les autres créatures. Cette raison est que la femme est capable de concevoir et est de facto, pour l'ordinaire, de rechef enceinte et accouche longtemps avant que l'enfant qu'elle a déjà soit en état de se passer du secours de ses parents et puisse lui-même pourvoir à ses besoins. Ainsi, un père étant obligé de prendre soin de ceux qu'il a engendrés et de prendre ce soin-là pendant longtemps, il est aussi dans l'obligation de continuer à vivre dans la société conjugale, avec la même femme de qui il les a eus, et de demeurer dans cette société beaucoup plus longtemps que les autres créatures, dont les petits, pouvant subsister d'eux-mêmes avant que le temps d'une nouvelle procréation vienne, le lien du mâle et de la femelle seront de lui-même, et l'un et l'autre se trouvent en une pleine liberté. Jusqu'à ce que cette saison, qui a coutume de solliciter les animaux à se joindre ensemble, les oblige à se choisir de nouvelles compagnes. Et ici, on ne saurait admirer assez la sagesse du grand Créateur, qui, ayant donné à l'homme des qualités propres pour pourvoir à l'avenir, aussi bien que pour pourvoir au présent, a voulu et a fait en sorte que la société de l'homme et de la femme dura beaucoup plus longtemps que celle du mâle et de la femelle parmi les autres créatures, afin que par là, l'industrie de l'homme et de la femme fût plus excitée et que leurs intérêts fussent mieux unis, dans la vue de faire des provisions pour leurs enfants et de leur laisser du bien. Rien ne pouvant être plus préjudiciable à des enfants qu'une conjonction incertaine et vague ou une dissolution facile et fréquente de la société conjugale. 81. Ce sont là certainement les fondements de l'union conjugale, qui est infiniment plus ferme et plus durable parmi les hommes que parmi les autres espèces d'animaux. Cependant, cela ne laisse pas de donner occasion de demander pourquoi le contrat de mariage, après que les enfants ont été procréés et élevés, et qu'on a eu soin de leur laisser un bon héritage, ne peut être déterminé de sorte que le mari et la femme puissent disposer d'eux comme il leur plaira, par accord, pour un certain temps, ou, sous de certaines conditions, conformément à ce qui se pratique dans tous les autres contrats et traités volontaires. Il semble qu'il n'y a pas une absolue nécessité dans la nature de la chose, ni, eu égard à ses fins, que le contrat de mariage doive avoir lieu durant toute la vie. J'entends parler du mariage de ceux qui ne sont soumis à aucune loi positive qui ordonne que les contrats de mariage soient perpétuels. 82. Le mari et la femme, qui n'ont au fond que les mêmes intérêts, ont pourtant quelquefois des esprits si différents, des inclinations et des humeurs si opposées, qu'il est nécessaire qu'il se trouve alors quelques dernières déterminations, quelques règles qui remédient à cet inconvénient-là, et que le droit de gouverner et de décider soit placé quelque part. Ce droit est naturellement le partage du mari. La nature le lui donne comme au plus capable et au plus fort. Mais cela ne s'étendant qu'aux choses qui appartiennent en commun au mari et à la femme, laisse la femme dans une pleine et réelle possession de ce qui, par le contrat, est reconnu son droit particulier, et du moins ne donne pas plus de pouvoir au mari sur la femme que la femme en a sur sa vie. Le pouvoir du mari est si éloigné du pouvoir d'un monarque absolu que la femme a, en plusieurs cas, la liberté de se séparer de lui lorsque le droit naturel ou leur contrat le lui permettent, soit que ce contrat ait été fait par eux-mêmes dans l'état de nature, soit qu'il ait été fait selon les coutumes et les lois du pays où ils vivent. Et alors, les enfants, dans la séparation, échoient au père ou à la mère, comme ce contrat le détermine. 83. Car toutes les fins du mariage devant être considérées et avoir leur effet sous un gouvernement politique, aussi bien que dans l'état de nature, le magistrat civil ne diminue point le droit ou le pouvoir du mari ou de la femme, naturellement nécessaire pour ses fins, qui sont de procréer des enfants, de se supporter et de s'assister mutuellement pendant qu'ils vivent ensemble. Tout ce que le magistrat fait, c'est qu'il termine les différends qui peuvent s'élever entre eux à l'égard de ces choses-là. S'il en arrivait autrement, si la souveraineté absolue et le pouvoir de vie et de mort appartenaient naturellement au mari et n'étaient nécessaires à la société de l'homme et de la femme, il ne pourrait y avoir de mariage en aucun de ces pays où il n'est point permis au mari d'avoir et d'exercer une telle autorité et un tel pouvoir absolu. Mais les fins du mariage ne requérant point un tel pouvoir dans les maris, il est clair qu'il ne leur est nullement nécessaire. La condition de la société conjugale ne l'établit point, mais bien tout ce qui peut s'accorder avec la procréation et l'éducation des enfants, que les parents sont absolument obligés de nourrir et d'élever, jusqu'à ce qu'ils puissent pourvoir à leurs besoins et se secourir eux-mêmes. Pour ce qui regarde l'assistance, la défense, les consolations réciproques, elles peuvent varier et être réglées par ce contrat qui a uni d'abord les mariés et les amis en société, rien n'étant nécessaire à une société que par rapport aux fins pour lesquelles elle a été faite. 84. Dans le chapitre précédent, j'ai traité assez au long de la société qui est entre les pères et mères et les enfants, et des droits et des pouvoirs distincts et divers qui leur appartiennent respectivement. C'est pourquoi il n'est pas nécessaire que j'en parle ici. Il suffit de reconnaître combien cette société est différente d'une société politique. 85. Les noms de maîtres et des serviteurs sont aussi anciens que l'histoire et ne sont donnés qu'à ceux qui sont de conditions fort différentes. Car un homme libre se rend serviteur et valet d'un autre en lui vendant, pour un certain temps, son service moyennant un certain salaire. Or, quoique cela le mette communément dans la famille de son maître et l'oblige à se soumettre à sa discipline et aux occupations de sa maison, il ne donne pourtant de pouvoir ou maître sur son serviteur ou son valet que pendant quelque temps, que pendant le temps qui est contenu et marqué dans le contrat ou le traité fait entre eux. Mais il y a une autre sorte de serviteur que nous appelons d'un nom particulier, esclave, et qui, ayant été fait prisonnier dans une juste guerre, sont, selon le droit de la nature, sujets à la domination absolue et au pouvoir arbitraire de leur maître. Ces gens-là, ayant mérité de perdre la vie à laquelle ils n'ont plus de droit par conséquent, n'ont plus aussi qu'à leur liberté, ni à leur bien, et se trouvant dans l'état d'esclavage, qui est incompatible avec la jouissance d'aucun bien propre, ils ne sauraient être considérés en cet état comme membres de la société civile, dont la fin principale est de conserver et maintenir les biens propres. 86. Considérons donc le maître d'une famille, avec toutes ses relations subordonnées, de femmes, d'enfants, de serviteurs et d'esclaves, unis et assemblés sous un même gouvernement domestique. Quelque ressemblance que cette famille puisse avoir dans son ordre, dans ses officiers, dans son nombre, avec un petit État. Il est certain pourtant qu'elle en est fort différente, soit dans sa constitution, soit dans son pouvoir, soit dans sa fin. Ou, si elle peut être regardée comme une monarchie, et que le père de famille y soit un monarque absolu, la monarchie absolue a un pouvoir bien resserré et bien petit, puisqu'il est manifeste, par tout ce qui a été dit auparavant, que le maître d'une famille a sur ses diverses personnes qui la composent des pouvoirs distincts, des pouvoirs limités différemment, soit à l'égard du temps, soit à l'égard de l'étendue. Car, si l'on excepte les esclaves, lesquels, après tout, ne contribuent en rien à l'essentiel d'une famille, le maître dont nous parlons n'a point un pouvoir législatif sur la vie ou sur la mort d'aucun de ceux qui composent sa famille, et la maîtresse en a autant que lui. Et certainement, un père de famille ne saurait avoir un pouvoir absolu sur toute sa famille, vu qu'il n'a qu'un pouvoir limité sur chacun de ceux qui en sont membres. Nous verrons mieux comment une famille ou quelque autre semblable société d'hommes diffère de ce qui s'appelle proprement société politique, en considérant en quoi une société politique consiste elle-même. 87. Les hommes étant nés tous également, ainsi qu'il a été prouvé, dans une liberté parfaite, et avec le droit de jouir paisiblement et sans contradiction de tous les droits et de tous les privilèges des lois de la nature. Chacun a, par la nature, le pouvoir non seulement de conserver ses biens propres, c'est-à-dire sa vie, sa liberté et ses richesses, contre toutes les entreprises, toutes les injures et tous les attentats des autres, mais encore de juger et de punir ceux qui violent les lois de la nature, selon qu'ils croient que l'offense le mérite, de punir même de mort lorsqu'il s'agit de quelque crime énorme qu'ils pensent mériter la mort. Or, parce qu'il ne peut y avoir de société politique, et qu'une telle société ne peut subsister si elle n'a en soi le pouvoir de conserver ce qui lui appartient en propre, et pour cela, de punir les fautes de ses membres. Là seulement se trouve une société politique, où chacun des membres s'est dépouillé de son pouvoir naturel, et l'a remis entre les mains de la société, afin qu'elle en dispose dans toutes sortes de causes qui n'empêchent point d'appeler toujours aux lois établies par elle. Par ce moyen, tout jugement des particuliers étant exclu, la société acquiert le droit de souveraineté, et certaines lois étant établies et certains hommes autorisés par la communauté pour les faire exécuter, il termine tous les différends qui peuvent arriver entre les membres de cette société-là, touchant quelques matières de droit, et punissent les fautes que quelque membre aura commises contre la société en général ou contre quelqu'un de son corps, conformément aux peines marquées par les lois. Et par là, il est aisé de discerner ceux qui sont ou qui ne sont pas ensemble en société politique, ceux qui composent un seul et même corps, qui ont des lois communes, établies, et des juges auxquels ils peuvent appeler, et qui ont l'autorité de terminer les disputes et les procès qui peuvent être parmi eux, et de punir ceux qui font tort aux autres et commettent quelques crimes. Ceux-là sont en société. Mais ceux qui ne peuvent être en société civile les uns avec les autres, appelés d'eux-mêmes à aucun tribunal sur la terre, ni à aucune loi positive, sont toujours dans l'état de nature. Chacun, où il n'y a point d'autre juge, étant juge et exécuteur pour soi-même, ce qui est, comme je l'ai montré auparavant, le véritable et parfait état de nature. Une société vient donc, par les voies que nous venons de marquer, à avoir le pouvoir de régler quelles sortes de punitions sont dues aux diverses offenses et aux divers crimes qui peuvent se commettre contre ses membres, ce qui est le pouvoir législatif. Comme elle acquiert de même, par là, le pouvoir de punir les injures faites à quelqu'un de ses membres par quelque personne qui n'en est point, ce qui est le droit de la guerre et de la paix. Tout cela ne tend qu'à conserver, autant qu'il est possible, ce qui appartient en propre aux membres de cette société. Mais, quoique chacun de ceux qui sont entrés en société ait abandonné le pouvoir qu'il avait de punir les infractions des lois de la nature, et de juger lui-même des cas qui pouvaient se présenter, il faut remarquer néanmoins qu'avec le droit de juger des offenses qu'il a remis à l'autorité législative pour toutes les causes dans lesquelles il peut appeler au magistrat, il a remis en même temps à la société le droit d'employer toute sa force pour l'exécution des jugements de la société toutes les fois que la nécessité le requerra. En sorte que ces jugements sont au fond ses propres jugements, puisqu'ils sont faits par lui-même ou par ce qui le représente. Et ici, nous voyons la vraie origine du pouvoir législatif et exécutif de la société civile, lequel consiste à juger par des lois établies et constantes de quelle manière les offenses commises dans la société doivent être punies, et aussi par des jugements occasionnels fondés sur les présentes circonstances du fait de quelle manière doivent être punies les injures de dehors et à l'égard des unes et des autres, à employer toutes les forces de tous les membres lorsqu'il est nécessaire. 89. C'est pourquoi, partout où il y a un certain nombre de gens unis de telle sorte en société que chacun d'eux et renoncé à son pouvoir exécutif des lois de la nature et les remis au public. Là, et là seulement, se trouve une société politique ou civile, et au nombre des membres d'une telle société doivent être mises non seulement ces diverses personnes qui, étant dans l'état de nature, ont voulu entrer en société pour composer un peuple et un corps politique sous un gouvernement souverain, mais aussi tous ceux qui se sont joints ensuite à ces gens-là, qui se sont incorporés à la même société, qui se sont soumis à un gouvernement déjà établi. Car, de cette manière, ils autorisent la société dans laquelle ils entrent volontairement, confirment le pouvoir qu'y ont les magistrats et les princes de faire des lois selon que le bien public le requiert, et s'engagent encore à joindre leur secours à celui des autres s'il est nécessaire pour la sûreté des lois et l'exécution des jugements qu'ils doivent regarder comme leurs jugements et leurs arrêts propres. Les hommes, donc, sortent de l'état de nature et entrent dans une société politique lorsqu'ils créent et établissent des juges et des souverains sur la terre, à qui ils communiquent l'autorité de terminer tous les différends et de punir toutes les injures qui peuvent être faites à quelqu'un des membres de la société. Et partout où l'on voit un certain nombre d'hommes, de quelque manière d'ailleurs qu'ils se soient associés, parmi lesquels ne se trouve pas un tel pouvoir décisif, auquel on puisse appeler, on doit regarder l'état où ils sont, comme étant toujours l'état de nature. 90. Il paraît, évidemment, par tout ce qu'on vient de lire, que la monarchie absolue, qui semble être considéré par quelques-uns comme le seul gouvernement qui doive avoir lieu dans le monde, est, à vrai dire, incompatible avec la société civile et ne peut nullement être réputé une forme de gouvernement civil. Car la fin de la société civile étant de remédier aux inconvénients qui se trouvent dans l'état de nature et qui naissent de la liberté où chacun est, d'être juge dans sa propre cause, et dans cette vue d'établir une certaine autorité publique et approuvée à laquelle chaque membre de la société puisse s'appeler et avoir recours pour des injures reçues ou pour des disputes et des procès qui peuvent s'élever et être obligé d'obéir. Partout où il y a des gens qui ne peuvent point appeler et avoir recours à une autorité de cette sorte et faire terminer par elle leurs différends, ces gens-là sont assurément toujours dans l'état de nature, aussi bien que tout prince absolu y est à l'égard de ceux qui sont sous sa domination. 91. En effet, ce prince absolu que nous supposons s'attribuant à lui seul tant le pouvoir législatif que le pouvoir exécutif, on ne saurait trouver parmi ceux sur qui il exerce son pouvoir un juge à qui l'on puisse appeler comme à un homme qui soit capable de décider et régler toutes choses librement, sans prendre parti et avec autorité, et de qui l'on puisse espérer de la consolation et quelques réparations au sujet de quelque injure ou de quelque dommage qu'on aura reçu, soit de lui-même ou par son ordre. Tellement qu'un tel homme, quoiqu'il s'appelle Ksar ou Sultan, ou de quelque autre manière qu'on voudra, est aussi bien dans l'état de nature avec tous ceux qui sont sous sa domination qu'il y est avec tout le reste du genre humain. Car partout où il y a des gens qui n'ont point de règlement stable et quelque commun juge auquel ils puissent s'appeler sur la terre pour la décision des disputes de droit qui sont capables de s'élever entre eux, on y est toujours dans l'état de nature et exposé à tous les inconvénients qui l'accompagnent, avec cette seule et malheureuse différence qu'on y est sujet, ou plutôt esclave, d'un prince absolu. Au lieu que, dans l'état ordinaire de nature, chacun a la liberté de juger de son propre droit, de la maintenir et de la défendre autant qu'il peut. Mais toutes les fois que les biens propres d'un homme seront envahis par la volonté ou l'ordre de son monarque, non seulement il n'a personne à qui il puisse appeler et ne peut avoir recours à une autorité publique, comme doivent avoir la liberté de faire ceux qui sont dans une société, mais comme s'il était dégradé de l'état commun de créature raisonnable, il n'a pas la liberté et la permission de juger de son droit et de le soutenir, et par là, il est exposé à toutes les misères et à tous les inconvénients qu'on a sujet de craindre et d'attendre d'un homme qui, étant dans un état de nature où il se croit tout permis et où rien ne peut s'opposer à lui, est de plus corrompu par la flatterie et armé d'un grand pouvoir. 92. Car, si quelqu'un s'imagine que le pouvoir absolu purifie le sang des hommes et élève la nature humaine, il n'a qu'à lire l'histoire de ce siècle ou de quelque autre pour être convaincu du contraire. Un homme qui, dans les déserts de l'Amérique, serait insolent et dangereux, ne deviendrait point sans doute meilleur sur le trône, surtout lorsque le savoir et la religion seraient employés pour justifier tout ce qu'il ferait à ses sujets, et que l'épée et le glaive imposerait d'abord la nécessité du silence à ceux qui oseraient y trouver à redire. Après tout, quelle espèce de protection est celle d'un monarque absolu? Quelle sorte de père de la patrie est un tel prince? Quel bonheur, quelle sûreté en revient à la société civile lorsqu'un gouvernement, comme celui dont il s'agit, a été amené à sa perfection, nous le pouvons voir, dans la dernière relation de Ceylan. 93. À la vérité, dans les monarchies absolues, aussi bien que dans les autres formes de gouvernement, les sujets ont des lois pour y appeler, et des juges pour faire terminer leurs différends et leurs procès, et réprimer la violence que les uns peuvent faire aux autres. Certainement, il n'y a personne qui ne pense que cela est nécessaire, et qui ne croit que celui qui voudrait entreprendre de l'abolir mériterait d'être regardé comme un ennemi déclaré de la société et du genre humain. On peut raisonnablement douter que cet usage établi ne vienne d'une véritable affection pour le genre humain et pour la société, et soit un effet de cette charité que nous sommes tous obligés d'avoir les uns pour les autres. Cependant, il ne se pratique rien en cela que ce que ceux qui aiment leur pouvoir, leur profit et leur agrandissement peuvent et doivent naturellement laisser pratiquer, qui est d'empêcher que ces animaux, dont le travail et le service sont destinés au plaisir de leur maître et à leur avantage, ne se fassent du mal les uns aux autres et ne se détruisent. Si leur maître en use de la sorte, s'ils prennent soin d'eux, ce n'est par aucune amitié, c'est seulement à cause du profit qu'ils en retirent. Que si l'on se hasardait à demander, ce qui n'a garde d'arriver souvent, quelle sûreté et quelle sauvegarde se trouvent dans un tel état et dans un tel gouvernement contre la violence et l'oppression du gouverneur absolu. On recevrait bientôt cette réponse qu'une seule demande de cette nature mérite la mort. Les monarques absolus et les défenseurs du pouvoir arbitraire avouent bien qu'entre sujet et sujet, il faut qu'il y ait de certaines règles, des lois et des juges pour leur paix et leur sûreté mutuelle. Mais ils soutiennent qu'un homme qui a le gouvernement entre ses mains doit être absolu et au-dessus de toutes les circonstances et des raisonnements d'autrui, qu'il a le pouvoir de faire le tort et les injustices qui lui plaît, et que ce qu'on appelle communément tort et injustice devient juste lorsqu'il le pratique. Demandez alors comment on peut être à l'abri du dommage, des injures, des injustices qui peuvent être faites à quelqu'un par celui qui est le plus fort. Ah, ce n'est pas moins d'abord que la voie de la faction et de la rébellion. Comme si, lorsque les hommes quittant l'état de nature pour entrer en société, convenaient que tous, hors un seul, serait soumis exactement et rigoureusement aux lois, et que ce seul privilégié retiendrait toujours toute la liberté de l'état de nature, augmentée et accrue par le pouvoir, et devenue licencieuse par l'impunité. Ce serait assurément s'imaginer que les hommes sont assez fous pour prendre grand soin de remédier aux maux que pourraient leur faire des fouines et des renards, et pour être bien aise, et croire même qu'il serait fort doux pour eux d'être dévorés par des lions. 94. Quoi que les flatteurs puissent dire, pour amuser les esprits du peuple, les hommes ne laisseront pas de sentir toujours les inconvénients qui naissent du pouvoir absolu. Lorsqu'ils viendront à apercevoir qu'un homme, quel que soit son rang, est hors des engagements de la société civile dans lesquels ils sont, et qu'il n'y a point d'appel pour eux sur la terre, contre les dommages et les maux qu'ils peuvent recevoir de lui, ils seront fort disposés à se croire dans l'état de nature, à l'égard de celui qu'ils verront y être, et à tâcher, dès qu'il leur sera possible, de se procurer quelque sûreté et quelque protection efficace dans la société civile, qui n'a été formée, du commencement, que pour cette protection et cette sûreté, et ceux qui en sont membres n'ayant consenti d'y entrer que dans la vue d'être à couvert de toute injustice et de vivre heureusement. Et quoiqu'au commencement, ainsi que je le montrerai plus au long dans la suite de ce traité, quelque vertueux et excellent personnage, ayant acquis par son mérite une certaine prééminence sur le reste des gens qui étaient dans le même lieu que lui, ceci est bien voulu récompenser d'une grande déférence ses vertus et ses talents extraordinaires, comme étant une espèce d'autorité naturelle, et est remis entre ses mains d'un commun accord le gouvernement et l'arbitrage de leurs différends, sans prendre d'autres précautions que celle de se confier entièrement en sa droiture et en sa sagesse. Néanmoins, lorsque le temps eut donné de l'autorité, et comme quelques-uns veulent nous le persuader, eut rendu sacré et inviolable cette coutume, que la négligente et peu prévoyante innocence a fait naître, et a laissé parvenir à des temps différents, et à des successeurs d'une autre trempe, le peuple a trouvé que ce qui lui appartient en propre n'était pas en sûreté et hors d'atteinte sous le gouvernement dans lequel il vivait, comme il devrait être, puisqu'il n'y avait point d'autre fin d'un gouvernement que de conserver ce qui appartient à chacun. Alors, il n'a pu se croire en sûreté, ni être en repos, ni se regarder comme étant en société civile, jusqu'à ce que l'autorité législative ait été placée en un corps collectif de gens, qu'on appellera Sénat, Parlement, ou de quelque autre manière qu'on voudra, et par le moyen duquel chacun, sans excepter le premier et le principal de la société, devienne sujet à ses lois, que lui-même, comme étant une partie de l'autorité législative, a établie, et jusqu'à ce qu'il ait été résolu que qui que ce soit ne pourra, par sa propre autorité, diminuer la force des lois quand une fois elles auront été faites, ni, sous aucun prétexte de supériorité, prétendre être exempt d'y obéir, pour se permettre, ou à quelques-uns de ceux de sa dépendance, des choses qui y soient contraires. Personne, sans doute, dans la société civile, ne peut être exempt d'en observer les lois, car, si quelqu'un pense pouvoir faire ce qu'il voudra, et qu'il n'y ait point d'appel sur la terre contre ses injustices et ses violences. Le demande, si un tel homme n'est pas toujours entièrement dans l'état de nature, s'il n'est pas incapable d'être membre de la société civile. Il faut demeurer d'accord de cela, à moins qu'on aime mieux dire que l'état de nature et la société civile sont une seule et même chose, ce que je n'ai jamais vu, comme je n'ai jamais entendu dire qu'aucun l'ait soutenu, quelque grand défenseur qu'il ait été de l'anarchie.